Chapitre 21. À l'affût. Ce geste qui me bouleversa ne parut point émouvoir extrêmement Rouletabille. Nous nous retrouvâmes dans sa chambre, et ne me parlant même point de la scène que nous venions de surprendre, il me donna ses dernières instructions pour la nuit. Nous allions d'abord dîner. Après dîner, je devais entrer dans le cabinet noir, et là, j'attendrai tout le temps qu'il faudrait pour voir quelque chose. Si vous voyez avant moi, m'expliqua mon ami, il faudra m'avertir. Vous verrez avant moi si l'homme arrive dans la galerie droite par tout autre chemin que la galerie tournante, puisque vous découvrez toute la galerie droite et que moi je ne puis voir que la galerie tournante. Pour m'avertir, vous n'aurez qu'à dénouer l'embrasse du rideau de la fenêtre de la galerie droite qui se trouve la plus proche du cabinet noir. Le rideau tombera de lui-même, voilant la fenêtre et faisant immédiatement un carré d'ombre là où il y avait un carré de lumière puisque la galerie est éclairée. Pour faire ce geste, vous n'avez qu'à allonger la main hors du cabinet noir. Moi, dans la galerie tournante qui fait angle droit avec la galerie droite, j'aperçois par les fenêtres de la galerie tournante tous les carrés de lumière que font les fenêtres de la galerie droite. Quand le carré lumineux qui nous occupe deviendra obscur, je saurai ce que cela veut dire. Et alors ? Alors, vous me verrez apparaître au coin de la galerie tournante. Et qu'est-ce que je ferai ? Vous marcherez aussitôt vers moi. Derrière l'homme, mais je serai déjà sur l'homme et j'aurai vu si sa figure entre dans mon cercle. Ah oui, celui qui est tracé par le bon bout de la raison, terminai-je en esquissant un sourire. Pourquoi souriez-vous ? C'est bien inutile. Enfin, profitez pour vous réjouir des quelques instants qui vous restent, car je vous jure que tout à l'heure, vous n'en aurez plus l'occasion. Et si l'homme échappe, tant mieux, fit facultativement Rouletabille. Je ne tiens pas à le prendre. Il pourra s'échapper en dégringolant l'escalier et par le vestibule du rez-de-chaussée, et cela avant que vous n'ayez atteint le palier, puisque vous êtes au fond de la galerie. Moi, je le laisserai partir après avoir vu sa figure. C'est tout ce qu'il me faut, voir sa figure. Je saurai bien m'arranger ensuite pour qu'il soit mort pour Mlle Stangerson, même s'il reste vivant. Si je le prends vivant, Mlle Stangerson et M. Robert Darzac ne me le pardonneront peut-être jamais. Mais je tiens à leur estime, ce sont de braves gens. Quand je vois Mlle Stangerson verser un narcotique dans le verre de son père, pour que son père, cette nuit, ne soit pas réveillé par la conversation qu'elle doit avoir avec son assassin, vous devez comprendre que sa reconnaissance pour moi aurait des limites si j'amenais à son père, les poings liés et la bouche ouverte, l'homme de la chambre jaune et de la galerie inexplicable. C'est peut-être un grand bonheur que, la nuit de la galerie inexplicable, l'homme se soit évanoui comme par enchantement. Je l'ai compris, cette nuit-là, la physionomie soudain rayonnante de Mlle Stangerson, quand elle eut appris qu'il avait échappé. Et j'ai compris que, pour sauver la malheureuse, il fallait moins prendre l'homme que le rendre muet, de quelque façon que ce fût. Mais tuer un homme, ce n'est pas une petite affaire. Et puis, ça ne me regarde pas. À moins qu'il ne m'en donne l'occasion. D'un autre côté, le rendre muet sans que la dame me fasse de confidence, c'est une besogne qui consiste d'abord à deviner tout avec rien. Heureusement, mon ami, j'ai deviné, ou plutôt non, j'ai raisonné, et je demande à l'homme de ce soir de ne m'apporter que la figure sensible qui doit entrer dans le cercle parfaitement. Et sa figure ne me surprendra pas. Mais je croyais que vous aviez déjà vu sa figure le soir où vous avez sauté dans la chambre. Mal. Oh, la bougie était par terre et puis toute cette barbe. Mais ce soir, il n'en aura donc plus? Non, je crois pouvoir affirmer qu'il en aura. Mais la galerie est claire et puis maintenant je sais, ou du moins mon cerveau sait. Alors mes yeux verront. Mais s'il ne s'agit que de le voir et de le laisser échapper, pourquoi nous être armés? Parce que, mon cher, si l'homme de la chambre jaune et de la galerie inexplicable sait que je sais, il est capable de tout. Alors il faudra nous défendre. Et vous êtes sûr qu'il viendra ce soir? Oh, si sûr que vous êtes là. Mademoiselle Stangerson, à 10h30 ce matin, le plus habilement du monde, s'est arrangée pour être sans garde malade cette nuit. Elle leur a donné congé pour 24 heures, sous des prétextes plausibles, et n'a voulu pourveiller auprès d'elle, pendant leur absence, que son cher père, qui couchera dans le boudoir de sa fille, et qui accepte cette nouvelle fonction avec une joie reconnaissante. La coïncidence du départ de M. Darzac, après les paroles qu'il m'a dites, et des précautions exceptionnelles de Mlle Stangerson pour faire autour d'elle de la solitude, ne permet aucun doute. La venue de l'assassin que Darzac redoute, Mlle Stangerson la prépare. C'est effroyable, oui. Et le geste que nous lui avons vu faire, c'est le geste qui va endormir son père, oui. En somme, pour l'affaire de cette nuit, nous ne sommes que deux. Quatre. Le concierge et sa femme veillent à tout hasard. Bon, je crois leur veille inutile, avant, mais le concierge pourra m'être utile... Après, si on tue. Vous croyez donc qu'on va tuer? On tuera s'il le veut. Pourquoi n'avoir pas averti le père Jacques? Vous ne vous servez plus de lui aujourd'hui? Non, me répondit Rouletabille d'un ton brusque. Je gardai quelque temps le silence. Puis, désireux de connaître le fond de la pensée de Rouletabille, je lui demandai à brûle-pourpoint, mais pourquoi ne pas avertir Arthur Rance? Il pourrait nous être d'un grand secours. Ah, ça, fit Rouletabille avec méchante humeur. Vous voulez donc mettre tout le monde dans les secrets de Mlle Stangerson? Allez, allons dîner, c'est l'heure. Ce soir, nous dînons chez Frédéric Larsan, à moins qu'il ne soit encore pendu aux trousses de Robert Darzac. Il ne le lâche pas d'une semelle. Mais, s'il n'est pas là en ce moment, je suis bien sûr qu'il sera là cette nuit. Ah, voilà que je vais rouler. À ce moment, nous entendîmes du bruit dans la chambre à côté. Oh, ça doit être lui, dit Rouletabille. J'oubliais de vous demander, fis-je, quand nous serons devant le policier? Pas une allusion à l'expédition de cette nuit, n'est-ce pas? Évidemment, nous opérons seuls pour notre compte personnel. Et toute la gloire sera pour nous. Rouletabille, ricanant, ajoutant : Tu l'as dit, bouffi. Nous dînâmes avec Frédéric Larsan dans sa chambre. Nous le trouvâmes chez lui. Il nous dit qu'il venait d'arriver et nous invita à nous mettre à table. Le dîner se passa dans la meilleure humeur du monde, et je n'eus point de peine à comprendre qu'il fallait l'attribuer à la quasi-certitude où Rouletabille et Frédéric Larsan, l'un et l'autre, et chacun de son côté, étaient de tenir enfin la vérité. Rouletabille confia au grand Fred que j'étais venu le voir de mon propre mouvement et qu'il m'avait retenu pour que je l'aidasse dans un grand travail qu'il devait livrer cette nuit même à l'époque. Je devais repartir, dit-il, pour Paris par le train d'11 heures, emportant sa copie, qui était une sorte de feuilleton, où le jeune reporter retraçait les principaux épisodes des mystères du Glandier. Larsan sourit à cette explication comme un homme qui n'en est point dupe, mais qui se garde, par politesse, d'émettre la moindre réflexion sur des choses qui ne le regardent pas. Avec 1000 précautions dans le langage et jusque dans les intonations, Larsan et Rouletabille s'entretinrent assez longtemps de la présence au château de M. Arthur Rance, de son passé en Amérique, qu'ils eussent voulu connaître mieux, du moins quant aux relations qu'il avait eues avec les Stangerson. À un moment, Larsan, qui me parut soudain souffrant, dit avec effort « Oh, je crois, monsieur Rouletabille, que nous n'avons plus grand-chose à faire au Glandier. Et m'est avis que nous n'y cocherons plus de nombreux soirs. » C'est aussi mon avis, monsieur Fred. Vous croyez donc, mon ami, que l'affaire est finie? Mais je crois en effet qu'elle est finie et qu'elle n'a plus rien à nous apprendre, répliqua Rouletabille. Avez-vous un coupable? Demanda Larsan. Et vous? Oui. Moi aussi, dit Rouletabille. Serait-ce le même? Oh, je ne crois pas, si vous n'avez pas changé d'idée, dit le jeune reporter. Et il ajouta avec force, « Monsieur Darzac est un fort honnête homme. » Vous en êtes sûr? Demanda Larsan. Eh bien, moi, je suis sûr du contraire. Alors, c'est donc la bataille? Oui, la bataille, et je vous battrai, monsieur Frédéric Larsan. « La jeunesse ne doute de rien, » termina le grand Fred en riant et en me serrant la main. Rouletabille répondit comme un écho, « Oui, de rien. » Mais soudain, Larsan, qui s'était levé pour nous souhaiter le bonsoir, porta les deux mains à sa poitrine et trébucha. Il dut s'appuyer à Rouletabille pour ne pas tomber. Il était devenu extrêmement pâle. Oh, fit-il, mais qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que je serais empoisonné? Et il nous regardait d'un œil hagard. En vain, nous l'interrogions, il ne nous répondait plus. Il s'était affaissé dans un fauteuil, et nous ne pûmes en tirer un seul mot. Nous étions extrêmement inquiets, et pour lui et pour nous, car nous avions mangé de tous les plats auxquels avait touché Frédéric Larsan. Nous nous empressions autour de lui. Maintenant, il ne semblait plus souffrir, mais sa tête lourde avait roulé sur son épaule, et ses paupières appesanties nous cachaient son regard. Rouletabille se pencha sur sa poitrine et ausculta son cœur. Quand il se releva, mon ami avait une figure aussi calme que je la lui avais vue tout à l'heure bouleversée. Il me dit « Il dort ». Et il m'entraîna dans sa chambre après avoir refermé la porte de la chambre de Larsan. « Le narcotique ?» demandai-je. « Mademoiselle Stangerson veut donc endormir tout le monde ce soir ?» « Oui, peut-être, » me répondit Rouletabille en songeant à autre chose. « Mais nous, exclamai-je, qui me dit que nous n'avons pas avalé un pareil narcotique ?»« Vous sentez-vous indisposé ?» me demanda Rouletabille avec sang-froid. « Non, aucunement. Avez-vous envie de dormir ?»« En aucune façon. »« Eh bien, mon ami !» Fumez cet excellent cigare. Et il me passa un Havane de premier choix que M. Darzac lui avait offert. Quant à lui, il alluma sa bouffarde, son éternelle bouffarde. Nous restâmes ainsi dans cette chambre jusqu'à 10 heures, sans qu'un mot fût prononcé. Plongé dans un fauteuil, Rouletabille fumait sans discontinuer, le front soucieux et le regard lointain. À 10 heures, il se déchaussa, me fit un signe et je compris que je devais, comme lui, retirer mes chaussures. Quand nous fûmes sur nos chaussettes, Rouletabille dit, et si bas que je devinais plutôt le mot que je ne l'entendis, « Revolver !» Je sortis mon revolver de la poche de mon veston. « Armé !» fit-il encore. « J'armais. » Alors il se dirigea vers la porte de sa chambre, l'ouvrit avec des précautions infinies. La porte ne cria pas. Nous fûmes dans la galerie tournante. Rouletabille me fit un nouveau signe. Je compris que je devais prendre mon poste dans le cabinet noir. Comme je m'éloignais déjà de lui, Rouletabille me rejoignit et m'embrassa. Et puis je vis qu'avec les mêmes précautions, il retournait dans sa chambre. Étonné de ce baiser et un peu inquiet, j'arrivais dans la galerie droite que je longeais sans encombre. Je traversais le palier et continuais mon chemin dans la galerie, aile gauche jusqu'au cabinet noir. Avant d'entrer dans le cabinet noir, je regardais de près l'embrasse du rideau de la fenêtre. Je n'avais en effet qu'à la toucher du doigt pour que le lourd rideau retombât d'un seul coup, cachant à Rouletabille le carré de lumière, signal convenu. Le bruit d'un pas m'arrêta devant la porte d'Arthur Rance. Il n'était donc pas encore couché. Mais comment était-il encore au château, n'ayant pas dîné avec M. Stangerson et sa fille? Du moins, je ne l'avais pas vu à table dans le moment que nous avions saisi le geste de Mlle Stangerson. Je me retirai dans mon cabinet noir. Je m'y trouvais parfaitement. Je voyais toute la galerie en enfilade, galerie éclairée comme en plein jour. Évidemment, rien de ce qui allait s'y passer ne pouvait m'échapper. Mais qu'est-ce qui allait s'y passer? Peut-être quelque chose de très grave. Nouveau souvenir inquiétant du baiser de Rouletabille. On embrasse ainsi ses amis que dans les grandes occasions, quand ils vont courir un danger. Alors je courais donc un danger. Mon poing se crispa sur la crosse de mon revolver et j'attendis. Je ne suis pas un héros, mais je ne suis pas un lâche. J'attendis une heure environ. Pendant cette heure, je ne remarquais absolument rien d'anormal. Dehors, la pluie qui s'était mise à tomber violemment vers 9 heures du soir avait cessé. Mon ami m'avait dit que rien ne se passerait probablement avant minuit ou 1 heure du matin. Cependant, il n'était pas plus 11h30 quand la porte de la chambre d'Arthur Rance s'ouvrit. Je l'entendis le faible grincement sur ses gonds. On eût dit qu'elle était poussée de l'intérieur avec la plus grande précaution. La porte resta ouverte un instant, qui me parut très long. Comme cette porte était ouverte, dans la galerie, c'est-à-dire poussée hors la chambre, je ne pus voir ni ce qui se passait dans la chambre, ni ce qui se passait derrière la porte. À ce moment, je remarquai un bruit bizarre qui se répétait pour la 3e fois, qui venait du parc et auquel je n'avais pas attaché plus d'importance qu'on a coutume d'en attacher au miaulement des chats qui errent la nuit sur les gouttières. Mais cette 3e fois, le miaulement était si pur et si spécial que je me rappelais ce que j'avais entendu raconter du cri de la bête du bon Dieu. Comme ce cri avait accompagné jusqu'à ce jour tous les drames qui s'étaient déroulés au Glandier, je ne pus m'empêcher à cette réflexion d'avoir un frisson. Aussitôt, je vis apparaître, au-delà de la porte et refermant la porte, un homme. « Je ne pus d'abord le reconnaître, car il me tournait le dos, et il était penché sur un ballot assez volumineux. L'homme, ayant refermé la porte et portant le ballot, se retourna vers le cabinet noir, et alors je vis qui il était. Celui qui sortait à 7 heures de la chambre d'Arthur Rance était le garde, c'était l'homme vert. Il avait ce costume que je lui avais vu sur la route, en face de l'auberge du donjon, le premier jour où j'étais venu au Glandier, et qu'il portait encore le matin même quand, sortant du château, nous l'avions rencontré, Rouletabille et moi. Aucun doute, c'était le garde. Je le vis fort distinctement. Il avait une figure qui me parut exprimer une certaine anxiété. Comme le cri de la bête au bon Dieu retentissait au dehors pour la 4e fois, il déposa son ballot dans la galerie et s'approcha de la 2e fenêtre en comptant les fenêtres à partir du cabinet noir. Je ne risquais aucun mouvement car je craignais de trahir ma présence. Quand il fut à cette fenêtre, il colla son front contre les vitraux dépolis et regarda la nuit du parc. Il resta là une demi-minute. La nuit était claire par intermittence, illuminée par une lune éclatante qui soudain disparaissait sous un gros nuage. L'homme vert leva le bras à 2 reprises, fit des signes que je ne comprenais point, puis, s'éloignant de la fenêtre, reprit son ballot et se dirigea, suivant la galerie, vers le palier. Rouletabille m'avait dit « Quand vous verrez quelque chose, dénouez l'embrasse. » Je voyais quelque chose. Était-ce cette chose que Rouletabille attendait? Ceci n'était point mon affaire et je n'avais qu'à exécuter la consigne qui m'avait été donnée. Je dénouai l'embrasse et mon cœur battait à se rompre. L'homme atteignit le palier, mais à ma grande stupéfaction, comme je m'attendais à le voir continuer son chemin dans la galerie, aile droite, je l'aperçus qui descendait l'escalier conduisant au vestibule. Que faire ? Stupidement, je regardais le lourd rideau qui était retombé sur la fenêtre. Le signal avait été donné, je ne voyais pas apparaître Rouletabille au coin de la galerie tournante. Rien ne vint, personne n'apparut. J'étais perplexe. Une demi-heure s'écoula qui me parut un siècle. Que faire maintenant, même si je voyais autre chose? Le signal avait été donné, je ne pouvais le donner une 2e fois. D'un autre côté, m'aventurer dans la galerie en ce moment pourrait déranger tous les plans de Rouletabille. Après tout, je n'avais rien à me reprocher, et s'il s'était passé quelque chose qui n'attendait point mon ami, celui-ci n'avait qu'à s'en prendre à lui-même. Ne pouvant plus être d'aucun réel secours d'avertissement pour lui, je risquai le tout pour le tout. Je sortis du cabinet et, toujours sur mes chaussettes, mesurant mes pas et écoutant le silence, je m'en fus vers la galerie tournante. Personne dans la galerie tournante. J'allai à la porte de la chambre de Rouletabille. J'écoutais. Rien. Je frappai bien doucement. Rien. Je tournai le bouton. La porte s'ouvrit. J'étais dans la chambre. Rouletabille était étendu tout son long sur le parquet. Chapitre 22. Le cadavre incroyable. Je me penchai avec une anxiété inexprimable sur le corps du reporter et j'eus la joie de constater qu'il dormait. Il dormait de ce sommeil profond et maladif dont j'avais vu s'endormir Frédéric Larsan. Lui aussi était victime du narcotique que l'on avait versé dans nos aliments. Comment moi-même n'avais-je point subi le même sort? Je réfléchis alors que le narcotique avait dû être versé dans notre vin ou dans notre eau, car ainsi tout s'expliquait. Je ne bois pas en mangeant. Doué par la nature d'une rotondité prématurée, je suis au régime sec, comme on dit. Je secouais avec force Rouletabille, mais je ne parvenais point à lui faire ouvrir les yeux. Ce sommeil devait être, à n'en point douter, le fait de Mademoiselle Stangerson. Celle-ci avait certainement pensé que, plus que son père encore, elle avait à craindre la veille de ce jeune homme qui prévoyait tout, qui savait tout. Je me rappelais que le maître d'hôtel nous avait recommandé, en nous servant, un excellent chablis qui, sans doute, avait passé sur la table du professeur et de sa fille. Plus d'un quart d'heure s'écoula ainsi. Je me résolus, en ces circonstances extrêmes, où nous avions tant besoin d'être éveillés, à des moyens robustes. Je lançai à la tête de Rouletabille un brodeau. Il ouvrit les yeux enfin, de pauvres yeux mornes, sans vie et ni regard. Mais n'était-ce pas là une première victoire? Je voulus la compléter et j'administrai une paire de gifles sur les joues de Rouletabille et le soulevai. Bonheur, je sentis qu'il se raidissait entre mes bras et je l'entendis qui murmurait « Continuez, mais ne faites pas tant de bruit !» Continuer à lui donner des gifles sans faire de bruit me parut une entreprise impossible. Je me repris à le pincer et à le secouer, et il put tenir sur ses jambes. Ah, nous étions sauvés. Oh, on m'a endormi, fit-il. Oh, j'ai passé un quart d'heure abominable avant de céder au sommeil. Mais maintenant, c'est passé, ne me quittez pas. Il n'avait pas plus tôt terminé cette phrase que nous eûmes les oreilles déchirées par un cri affreux qui retentissait dans le château, un véritable cri de la mort. « Malheur !» hurla Rouletabille, « nous arrivons trop tard !» Et il voulut se précipiter vers la porte, mais il était tout étourdi et roula contre la muraille. Moi, j'étais déjà dans la galerie, le revolver au poing, courant comme un fou du côté de la chambre de Mademoiselle Stangerson. Au moment même où j'arrivais à l'intersection de la galerie tournante et de la galerie droite, je vis un individu qui s'échappait de l'appartement de Mademoiselle Stangerson et qui, en quelques bonds, atteignit le palier. Je ne fus pas maître de mon geste. Je tirai. Le coup de revolver retentit dans la galerie avec un fracas assourdissant, mais l'homme, continuant ses bonds insensés, dégringolait déjà l'escalier. Je courus derrière lui en criant « Arrête, arrête ou je te tue !» Et comme je me précipitais à mon tour dans l'escalier, je vis en face de moi, arrivant du fond de la galerie, aile gauche du château, Arthur Hans qui hurlait « Mais qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il ?» Nous arrivâmes presque en même temps au bas de l'escalier, Arthur Hans et moi. La fenêtre du vestibule était ouverte. Nous vîmes distinctement la forme de l'homme qui fuyait. Instinctivement, nous déchargeâmes nos revolvers dans sa direction. L'homme n'était pas à plus de 10 mètres devant nous. Il trébucha et nous crûmes qu'il allait tomber. Déjà, nous sautions par la fenêtre, mais l'homme se reprit à courir avec une vigueur nouvelle. J'étais en chaussettes, l'Américain était pieds nus. Nous ne pouvions espérer l'atteindre si nos revolvers ne l'atteignaient pas. Nous tirâmes nos dernières cartouches sur lui. Il fuyait toujours. Mais il fuyait du côté droit de la cour d'honneur, vers l'extrémité de l'aile droite du château, dans ce coin entouré de fossés et de hautes grilles, d'où il allait lui être impossible de s'échapper, dans ce coin qui n'avait d'autre issue devant nous que la porte de la petite chambre en encorbellement occupée maintenant par le garde. L'homme, bien qu'il fût inévitablement blessé par nos balles, avait maintenant une vingtaine de mètres d'avance. Soudain, derrière nous, au-dessus de nos têtes, une fenêtre de la galerie s'ouvrit et nous entendîmes la voix de Rouletabille qui clamait désespéré « Tirez, Bernier, tirez !» Et la nuit claire, en ce moment, la nuit lunaire, fut encore striée d'un éclair. À la lueur de cet éclair, nous vîmes le père Bernier, debout avec son fusil, à la porte du donjon. Il avait bien visé. L'ombre tomba. Mais comme elle était arrivée à l'extrémité de l'aile droite du château, elle tomba de l'autre côté de l'angle de la bâtisse, c'est-à-dire que nous vîmes qu'elle tombait, mais elle ne s'allongea définitivement par terre que de cet autre côté du mur que nous ne pouvions pas voir. Bernier, Arthur Hans et moi, nous arrivions de cet autre côté du mur 20 secondes plus tard. L'ombre était morte à nos pieds. Réveillé, évidemment, de son sommeil léthargique par les clameurs et les détonations, Larsan venait d'ouvrir la fenêtre de sa chambre et nous criait, comme avait crié Arthur Hans, « Mais qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ?» Et nous, nous étions penchés sur l'ombre, sur la mystérieuse ombre morte de l'assassin. Rouletabille, tout à fait réveillé maintenant, nous rejoignit dans le moment et je lui criai « Il est mort, il est mort !»« Tant mieux, » fit-il, « apportez-le dans le vestibule du château. » Puis il se remit, « Non, déposons-le dans la chambre du garde. » Rouletabille frappa à la porte de la chambre du garde. Personne ne répondit de l'intérieur, ce qui ne m'étonna point naturellement. « Évidemment, il n'est pas là !» fit le reporter, sans quoi il serait déjà sorti. « Portons donc ce corps dans le vestibule. » Depuis que nous étions arrivés sur l'ombre morte, la nuit s'était faite si noire, par suite du passage d'un gros nuage sur la lune, que nous ne pouvions que toucher cette ombre sans en distinguer les lignes. Et cependant, nos yeux avaient hâte de savoir. Le père Jacques, qui arrivait, nous aida à transporter le cadavre jusque dans le vestibule du château. Là, nous le déposâmes sur la première marche de l'escalier. J'avais senti sur mes mains, pendant ce trajet, le sang chaud qui coulait des blessures. Le père Jacques courut aux cuisines et en revint avec une lanterne. Il se pencha sur le visage de l'ombre morte et nous reconnûmes le garde, celui que le patron de l'auberge du donjon appelait l'homme vert et que, une heure auparavant, j'avais vu sortir de la chambre d'Arthur Hans chargé d'un ballot. Mais ce que j'avais vu, je ne pouvais le rapporter qu'à Rouletabille seul, ce que je fis du reste quelques instants plus tard. Je ne saurais passer sous silence l'immense stupéfaction, je dirais même le cruel désappointement dont firent preuve Joseph Rouletabille et Frédéric Larsan, lequel nous avait rejoint dans le vestibule. Il tâtait le cadavre, il regardait cette figure morte, ce costume vert du garde, et il répétait l'un et l'autre, mais impossible, c'est impossible. Rouletabille s'écria même, mais c'est à jeter sa tête au chien. Le père Jacques montrait une douleur stupide, accompagnée de lamentations ridicules. Il affirmait qu'on s'était trompé et que le garde ne pouvait être l'assassin de sa maîtresse. Nous dûmes le faire taire. On aurait assassiné son fils, qui n'eût point gémi davantage. J'expliquais cette exagération de bons sentiments par la peur dont il devait être tenté de que l'on crut qu'il se réjouissait de ce décès dramatique. Chacun savait en effet que le père Jacques détestait le garde. Je constatai que seuls de nous tous qui étions fort débraillés, ou pieds nus, ou en chaussettes, le père Jacques était entièrement habillé. Mais Rouletabille n'avait pas lâché le cadavre. À genoux, sur les dalles du vestibule, éclairé par la lanterne du père Jacques, il déshabillait le corps du garde. Il lui mit la poitrine à nu. Elle était sanglante. Et soudain, prenant des mains du père Jacques la lanterne, il en projeta les rayons de tout près sur la blessure béante. Alors il se releva et dit sur un ton extraordinaire, sur un ton d'une ironie sauvage, « Cet homme que vous croyez avoir tué à coups de revolver et de chevrotine est mort d'un coup de couteau au cœur. » Je crus une fois de plus que Rouletabille était devenu fou et je me penchai à mon tour sur le cadavre. Alors, je pus constater qu'en effet, le corps du garde ne portait aucune blessure provenant d'un projectile et que seule la région cardiaque avait été entaillée par une lame aiguë. Chapitre 23. La double piste. Je n'étais pas encore revenu de la stupeur que me causait une pareille découverte quand mon jeune ami me frappa sur l'épaule et me dit « Suivez-moi. » « Où ?» lui demandai-je. « Dans ma chambre. » « Qu'allons-nous y faire ?»« Réfléchir. » J'avouais, quant à moi, que j'étais dans l'impossibilité totale non seulement de réfléchir, mais encore de penser. Et dans cette nuit tragique, après des événements dont l'horreur n'était égalée que par leur incohérence, je m'expliquais difficilement comment, entre le cadavre du garde et Mademoiselle Stangerson, peut-être à l'agonie, Joseph Rouletabille pouvait avoir la prétention de réfléchir. C'est ce qu'il fit cependant, avec le sang-froid des grands capitaines au milieu des batailles. Il poussa sur nous la porte de sa chambre, m'indiqua un fauteuil, s'assit posément en face de moi et naturellement alluma sa pipe. Je le regardai réfléchir, et je m'endormis. Quand je me réveillais, il faisait jour. Ma montre marquait 8 heures. Rouletabille n'était plus là. Son fauteuil, en face de moi, était vide. Je me levais et commençais de m'étirer les membres, quand la porte s'ouvrit et mon ami rentra. Je vis tout de suite à sa physionomie que pendant que je dormais, il n'avait point perdu son temps. « Mademoiselle Stangerson ? » demandai-je tout de suite. « Son état est très alarmant, mais il n'est pas désespéré. Il y a longtemps que vous avez quitté cette chambre ? Au premier rayon de l'aube ? Vous avez travaillé beaucoup ? Découvert quoi ? Ah, une double empreinte de pas très remarquable et qui aurait pu me gêner. Ah, elle ne vous gêne plus ? Non. Vous explique-t-elle quelque chose ? Oui. Relativement au cadavre incroyable du garde ? Oui. Ce cadavre est tout à fait croyable maintenant. J'ai découvert ce matin, en me promenant autour du château, 2 sortes de pas distinctes dont les empreintes avaient été faites cette nuit, en même temps, côte à côte. Je dis « en même temps » et en vérité, il ne pouvait guère en être autrement, car si l'une de ces empreintes était venue après l'autre, suivant le même chemin, elle eût souvent empiété sur l'autre, ce qui n'arrivait jamais. Les pas de celui-ci ne marchaient point sur les pas de celui-là. Non, c'était des pas qui semblaient causer entre deux. Cette double empreinte quittait toutes les autres empreintes vers le milieu de la cour d'honneur pour sortir de cette cour et se diriger vers la chênaie. Je quittai la cour d'honneur, les yeux fixés vers ma piste, quand je fus rejoint par Frédéric Larsan. Immédiatement, il s'intéressa beaucoup à mon travail, car cette double empreinte méritait vraiment qu'on s'y attachât. On retrouvait là la double empreinte des pas de l'affaire de la chambre jaune, les pas grossiers et les pas élégants. Mais tandis que, lors de l'affaire de la chambre jaune, les pas grossiers ne faisaient que joindre au bord de l'étang les pas d'élégants, pour disparaître ensuite, dont nous avions conclu, Larsan et moi, que ces deux sortes de pas appartenaient au même individu qui n'avait fait que changer de chaussure, ici, pas grossiers, pas élégants, voyageaient de compagnie. Une pareille constatation était bien faite pour me troubler dans mes certitudes antérieures. Larsan semblait penser comme moi. Aussi, restions-nous penchés sur ces empreintes, reniflant ses pas comme des chiens à l'affût. Je sortis de mon portefeuille mes semelles de papier. La première semelle, qui était celle que j'avais découpée sur l'empreinte des souliers du père Jacques, retrouvée par Larsan, c'est-à-dire sur l'empreinte des pas grossiers, cette première semelle, dis-je, s'appliqua parfaitement à l'une des traces que nous avions sous les yeux, et la seconde semelle, qui était le dessin des pas élégants, s'appliqua également sur l'empreinte correspondante, mais avec une légère différence à la pointe. En somme, cette trace nouvelle du pas élégant ne différait de la trace du bord de l'étang que par la pointe de la bottine. Nous ne pouvions en tirer cette conclusion que cette trace appartenait au même personnage, mais nous ne pouvions pas non plus affirmer qu'elle ne lui appartenait pas. L'inconnu pouvait ne pas porter les mêmes bottines. Suivant toujours cette double empreinte, Larsan et moi nous fûmes conduits à sortir bientôt de la chênaie et nous nous trouvâmes sur les mêmes bords de l'étang qui nous avaient vus lors de notre première enquête. Mais cette fois, aucune des traces ne s'y arrêtait et toutes deux, prenant le petit sentier, allaient rejoindre la grande route d'Épinay. Là, nous tombâmes sur un macadam récent qui ne nous montra plus rien et nous revînmes au château sans nous dire un mot. Arrivés dans la cour d'honneur, nous nous sommes séparés, mais par suite du même chemin qu'avait pris notre pensée, nous nous sommes rencontrés à nouveau devant la porte de la chambre du père Jacques. Nous avons trouvé le vieux serviteur au lit et constaté tout de suite que les effets qu'il avait jetés sur une chaise étaient dans un état lamentable et que ses chaussures, des souliers tout à fait pareils à ceux que nous connaissions, était extraordinairement boueux. Ce n'était certainement point en aidant à transporter le cadavre du garde du bout de cour au vestibule et en allant chercher une lanterne aux cuisines que le père Jacques avait arrangé de la sorte ses chaussures et trempé ses habits puisqu'alors il ne pleuvait pas. Mais il avait plu avant ce moment-là et il avait plu après. Quant à la figure du bonhomme, elle n'était pas belle à voir. Elle semblait refléter une fatigue extrême, et ses yeux clignotants nous regardèrent de l'abord avec effroi. Nous l'avons interrogé. Il nous a répondu, d'abord, qu'il s'était couché immédiatement après l'arrivée au château du médecin, que le maître d'hôtel était allé quérir. Mais nous l'avons si bien poussé, nous lui avons si bien prouvé qu'il mentait, qu'il a fini par nous avouer qu'il était en effet sorti du château. Nous lui en avons naturellement demandé la raison. Il nous a répondu qu'il s'était senti mal à la tête et qu'il avait eu besoin de prendre l'air, mais qu'il n'était pas allé plus loin que la chênaie. Nous lui avons alors décrit tout le chemin qu'il avait fait aussi bien que si nous l'avions vu marcher. Le vieillard se dressa sur son séant et se prit à trembler. « Vous n'étiez pas seul !» s'écria Larsan. Alors le père Jacques, « Oh, vous l'avez donc vu ?»« Qui ?» demandai-je. « Mais le fantôme noir ?» Sur quoi le père Jacques nous conta que depuis quelques nuits, il voyait le fantôme noir. Il apparaissait dans le parc sur le coup de minuit et glissait contre les arbres avec une souplesse incroyable. Il paraissait traverser le tronc des arbres. Deux fois, le père Jacques, qui avait aperçu le fantôme à travers sa fenêtre à la clarté de la lune, s'était levé et, résolument, était parti à la chasse de cette étrange apparition. L'avant-veille, il avait failli la rejoindre, mais elle s'était évanouie au coin du donjon. Enfin, cette nuit, étant en effet sorti du château, travaillé par l'idée du nouveau crime qui venait de se commettre, il avait vu tout à coup surgir au milieu de la cour d'honneur le fantôme noir. Il l'avait suivi d'abord prudemment, puis de plus près. Ainsi, il avait tourné la chaînée, l'étang, et était arrivé au bord de la route d'Épinay. Là, le fantôme avait soudain disparu. « Vous n'avez pas vu sa figure ?» demanda Larsan. « Non, je n'ai vu que des voiles noires. Et après ce qui s'est passé dans la galerie, vous n'avez pas sauté dessus ?»« Je ne le pouvais pas, je me sentais terrifié. C'est à peine si j'avais la force de le suivre. » « Vous ne l'avez pas suivi, » fis-je père Jacques, et ma voix était menaçante. « Vous êtes allé avec le fantôme jusqu'à la route d'Épinay, bras dessus, bras dessous. »« Non !» cria-t-il. « Il s'est mis à tomber des trombes d'eau, je suis rentré. Je pense que le fantôme noir est devenu. » Mais ses yeux se détournèrent de moi. Nous le quittâmes. Quand nous fûmes dehors, complice, interrogeai-je sur un singulier ton en regardant Larsan bien en face pour surprendre le fond de sa pensée. Larsan leva les bras au ciel. « Bon, est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait dans une affaire pareille ? Il y a 24 heures, j'aurais juré qu'il n'y avait pas de complice. » Et il me laissa en m'annonçant qu'il quittait le château sur le champ pour se rendre à Épinay. Rouletabille avait fini son récit. Je lui demandai, « Eh bien, que conclure de tout cela ? Quant à moi, je ne vois pas. Je ne saisis pas. Enfin, vous, que savez-vous ? Mais tout ! S'exclama-t-il. Tout ! Et je ne lui avais jamais vu figure plus rayonnante. Il s'était levé et me serrait la main avec force. « Alors expliquez-moi, priai-je. Allons demander des nouvelles de Mademoiselle Stangerson, me répondit-il brusquement. »